La suite des programmes sur Radio Éthique, c'est avec une news de Pascal Marcadji.
Qu'attendre de la COP 21 dans le cadre du forum Vivre ensemble le réchauffement climatique organisé par le Conseil économique, social et environnemental? Nicolas Hulot répondait à cette question. Nicolas Hulot qui s'est livré à un petit préambule en prenant l'exemple du Maroc ou l'équivalent du CESE voit ses décisions bien plus prises en compte par l'État que chez nous.
Merci beaucoup. Je vais tenter de répondre à cette question. Je voudrais simplement faire un petit clin d'œil d'abord à Jean-Paul Delevoye, parce qu'il se trouve que j'étais au Maroc encore hier et j'ai dîné avec votre homologue. Au-delà de l'anecdote qui n'a aucun intérêt ici, il m'a livré une information qui par contre, elle, a un intérêt et qui peut faire partie justement des solutions institutionnelles. Il m'a dit que le CESE marocain, 37% des amendements qu'il proposait étaient mis en œuvre. Je dis simplement ça, c'est que quand on voit l'intelligence qui est produite ici, si l'exécutif ou le législatif pouvait s'en inspirer un peu plus, le monde n'en irait pas plus mal. Donc je me permets de soumettre ça à la réflexion générale. Je peux aussi répondre très brièvement à la question que vous venez de poser par une phrase assez pathétique que j'ai entendue au sommet des femmes qui avait lieu à Rabat, les femmes pour le climat. Et je ne sais plus de quelle nationalité était cette femme africaine qui nous a dit à Paris, vous allez décider qui va mourir ou pas. Et ça permet simplement de prendre la mesure de la situation qu'à Paris, nous allons décider soit de subir l'histoire, soit de l'écrire. L'avenir n'est désespérant que si on laisse le temps décider à notre place. On est rentré, si l'on en croit les scientifiques, dans l'ère de l'anthropocène. Ça veut dire que l'évolution n'est plus biologique, elle est socio-culturelle. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. L'avenir dépend de nous. Quelqu'un disait, je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. Bon, ben on va tâcher de faire en sorte que cet homme à l'esprit chagrin ait tort et que ça soit une bonne nouvelle. Encore faut-il que l'on saisisse la fenêtre d'opportunité qui fait que nous pourrons ou agir, ou malheureusement, à un moment ou à un autre, si on laisse passer cette fenêtre, on sera assis à la table des conséquences et là, nous ne pourrons que subir. Mais cette fenêtre est effectivement excessivement courte. Si nous subissons, est-ce besoin de forcer le trait? Je crois que le constat est suffisamment probant. Je sais que le catastrophisme n'est pas mobilisateur. Mais enfin, à force de tamiser les choses, à force de masquer la réalité, à force de penser que ça n'est pas si grave, que ça n'est pas si urgent, nous ne cessons de repousser le temps de, comme dit Edgar Morin, de la métamorphose. Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Mais profitons du temps qui nous est donné pour faire cette révolution à l'amiable, parce qu'il nous est compté. Vous savez, moi j'ai le sentiment, dans un monde qui nous échappe un peu, il faut bien reconnaître que ce 21e siècle se lève sous des schémas que nous n'avions pas prévus, dans une tension, un clivage qui nous échappe totalement. Et qui, si on veut être objectif, même si c'est sur des schémas qui nous paraissent incompréhensibles, trouvent leur explication dans les racines de l'histoire. Dit autrement, l'histoire de demain se conditionne au temps présent. Et la crise climatique, il faut bien le garder à l'esprit, c'est l'ultime injustice. Elle frappe prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui sont victimes d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, qui accessoirement a pu se faire sur leur dos, et dont cela vient accabler, accentuer leur précarité. Et face à cette situation, qui est une double injustice, la réponse pour formaliser cette solidarité, cette responsabilité historique que nous nous évertuons parfois à nier, se fait cruellement attendre. Le temps aux Philippines, comme le temps dans la bande sahélienne, n'est pas le même. Si Paris d'avenir ne remplit pas sa mission, c'est une éternité pour eux d'attendre les outils à l'adaptation. Donc, dans un monde qui peut s'embraser, gardons simplement le fait que cette ultime injustice peut être un facteur déclenchant, comme elle l'a été dans énormément d'ailleurs de conflits. C'est simplement pour dire que agir ou subir nous renvoie à deux mots, contrainte ou opportunité. Contrainte, oui. Opportunité, certainement, parce que pour reprendre le début de l'intitulé « Vivre ensemble », pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un enjeu qui vaut pour tous les continents, pour toutes les catégories sociales, culturelles, que nous soyons laïcs ou religieux, riches ou pauvres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui nous obligera à un moment ou à un autre, peut-être trop tard, de nous retrouver non pas sur ce qui nous ressemble, parce qu'en général, c'est plutôt ce critère qui crée de la convergence, mais sur ce qui nous rassemble. Et donc, c'est peut-être une occasion inespérée, mais bienvenue, de nous retrouver d'abord de nous voir tels que nous sommes, une petite famille de naufragés dans un univers infini qui a non seulement une communauté d'origine, mais plus certainement une communauté de destin. Et donc, si nous nous voyons tels quels, peut-être que cela pourrait rendre un peu dérisoire un certain nombre de divisions que nous entretenons, parfois artificiellement, parce que nous aimons bien nous mettre dans des cases et pouvoir nous identifier. Mais combien ces divisions peuvent nous sembler factices par rapport à l'enjeu que nous avons sous les pieds. Donc nous sommes, je dirais, à un moment de vérité. Moment de vérité pour voir si les mots ont un sens. Parce que pour l'instant, ici où vous parlez souvent d'économie circulaire, la seule chose que l'on recycle bien, ce sont les discours et les mots. De ce point de vue-là, reconnaissant que nous en faisons bon usage. Mais je les entends en boucle depuis 25 ans, et pendant ce temps, les phénomènes que nous sommes censés combattre, eux, s'envolent d'une manière exponentielle. Mais à Paris, on ne pourra pas s'échapper. L'éclairage est trop fort, la réalité est trop forte, la légitimité des revendications des pays du Sud est trop légitime pour que nous soyons encore dans une forme de mystification. C'est le temps de la vérité. C'est le temps peut-être de l'accomplissement de l'humanité. Peut-être que nous n'avons pas achevé notre phase d'humanisation. Et c'est peut-être justement le moment, on va le savoir. Mais on ne devra pas s'accommoder simplement d'intention. Il faut forcer, évidemment, les uns et les autres à une forme de vérité et surtout de précision. Chacun aura compris que si on laisse cette échéance partir, oh, le monde ne va pas s'écrouler au lendemain de la conférence de Paris. Peut-être que nous pourrons rebondir sous une forme ou sous une autre. Enfin, je ne suis pas certain que ce soit la même analyse de ceux, encore une fois, qui voient la désertification progresser ou leurs ressources en eau s'échapper ou leur rendement agricole diminuer à vue d'œil. Mais si c'est notre intelligence qui est mise en demeure, tout simplement, de prendre en charge les manifestations de son propre succès, parce que c'est ça l'équation du XXIe siècle. Nous n'avions pas forcément, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, imaginer que notre mode de développement, notre mode énergétique allait subir des effets bénéfiques, provoquer des effets bénéfiques, mais malheureusement nous conduire à notre propre perte. Paris, pour moi, sa réussite, sa crédibilité, se fera pas simplement dans les objectifs, certes, et gardons à l'esprit que cette trajectoire inférieure à 2 degrés, et non pas de 2 degrés, reste l'objectif ultime, mais chacun sait qu'on peut toujours, à 2050 et à l'horizon de 2100, se fixer tous les objectifs du monde avec une sincérité de l'instant, mais la crédibilité se fera plutôt sur les moyens qui nous permettront de réaliser ces objectifs. Et c'est là qu'il faudra que nous soyons intraitables. Intraitables pour nous dire comment allons-nous le faire. Et l'autre jour, à Lima, le représentant d'un pays d'Amérique latine, dans une posture peut-être un peu forte, a jeté à la communauté des pays industriels cette cinglante phrase « Ce n'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système ». Il n'y a pas tout à fait tort. C'est un paradigme qu'il va falloir changer. Et ceux qui pensent qu'on peut continuer « business as usual » avec quelques adaptations à la marge, participent de cette mystification. C'est une révision en profondeur, mais on ne doit pas s'en effrayer. On ne doit pas s'en effrayer parce que la bonne nouvelle quand même dans tout cela, c'est que l'histoire a montré que quand la contrainte est imparable, l'impensable est possible. Dit autrement, la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition et la créativité est en marche. Encore faut-il qu'on lui dégage de l'espace, qu'on libère de l'espace. C'est-à-dire que le vieux modèle laisse de l'espace, que ce qui est l'exception devienne la norme, les standards de demain. Et donc il faut évidemment une coordination, un point de rencontre entre cette innovation qui vient du sol, qui vient de la base, et cette coordination qui doit venir du sommet. Et Paris, c'est la responsabilité de cette organisation des chefs d'État. C'est à eux de fixer les cadres. Alors pour essayer d'être court, mais quand même à l'échelle des outils qu'il va falloir mettre en place. Première chose, et tout ça doit se régler avant la conférence de Paris, prioritairement rétablir la confiance avec les pays les plus vulnérables qui subissent les changements climatiques sans les avoir provoqués et qui, d'une manière totalement légitime, réclament une aide pour s'adapter. Cet objectif d'adaptation doit être pris en compte à parité avec l'objectif d'atténuation, mais pas simplement être écouté, il doit être réalisé. Parce que chaque État, maintenant, doute pour les pays les plus vulnérables, non pas forcément de notre sincérité au moment où nous promettons, par exemple, 100 milliards de dollars à l'horizon de 2020 pour abonder, entre autres, le Fonds vert pour le climat. Ils doutent légitimement de notre capacité à honorer ces promesses parce qu'ils savent très bien que les pays dits riches sont prioritairement riches de leurs dettes et donc que leurs marges de manœuvre budgétaires sont excessivement contraintes. Donc si nous promettons ne serait-ce que pour l'adaptation, des dizaines, voire des centaines de milliards, parce que c'est plutôt dans cette échelle-là que les choses devront se faire, d'autant plus que simultanément nous devrons atteindre nos objectifs d'aide au développement que nous n'avons pas encore réalisés. Je rappelle que la France n'est pas au 0,7 auquel elle s'est engagée. Chacun comprendra que ça n'est pas dans l'orthodoxie économique et financière actuelle que nous serons en situation de réaliser nos engagements. Premier message que je veux faire passer, c'est que maintenant que je vois qu'au plus haut niveau des États, les mots sont justes. J'entends avec plaisir, le mot n'est peut-être pas bien approprié, parler d'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète. Mais si les mots ont un sens, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre contre nous-mêmes, contre le climat. Donc il faut rentrer presque en économie de guerre. Et donc si on ne sort pas des cadres, si on ne sort pas de l'orthodoxie financière et économique, je considère que nous participons de la mystification. Et donc si on veut réaliser ces engagements, c'est peut-être le moment justement d'oser. J'avais dit un jour jusqu'aux frontières de l'utopie, mais comme disait Monod, l'utopie c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui est irréalisé. Et donc pour moi, la priorité des priorités, c'est de chercher, d'évaluer, de promouvoir, d'adopter ce qu'on appelle les mécanismes de financement innovants, trouver d'autres sources de financement innovants pour faire rentrer dans le périmètre de la solidarité un pan entier qui parfois s'en est exonéré. Et donc il faut avoir une approche intégrale. Je prends un simple exemple. Ce vieux serpent de mer que l'on agite depuis des lustres au gré des crises, porté souvent par prioritairement les altermondialistes, que l'on appelle la taxe sur les transactions financières, pour ne prendre qu'un exemple. Si son temps n'est pas venu, tout au moins dans la réflexion, compte tenu des contraintes humanitaires, des contraintes climatiques, on pourra m'expliquer à quel moment, éventuellement, on pourra le remettre sur la table. Si nous occultons avant Paris cet outil sur lequel s'accordent tous les économistes qui se sont penchés sur ce sujet-là, la nécessité de fixer un prix au carbone. Si, par exemple, imaginez qu'au moment du G20, 15 jours avant la COP de Paris, les 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre se fixent enfin un prix au carbone qui va permettre d'orienter tous les investissements et de créer des recettes qui pourront permettre aux pays du Sud de se développer sans passer par les énergies fossiles. Mais là, vous ouvrez une voie, sans faire de mauvais jeu de mots, royale à Paris sur les changements climatiques, enfin, en tout cas sur la réussite de la conférence climat. Mais dans le même temps, comment imaginer une seule seconde, alors qu'on s'accommode d'une schizophrénie absolue, donner crédibilité à nos engagements si l'on s'accommode du fait que, selon les sources, chaque année nous allouons 650 milliards de dollars de subventions, d'exonérations et de défiscalisation aux énergies fossiles? Comment voulez-vous rendre le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique compétitive? Comment peut-on s'accommoder que des milliers de milliards d'actifs et d'investissements soient orientés sur l'économie carbone, alors que par un certain nombre d'instruments, nous pourrions massivement réorienter? Je veux simplement dire, c'est que c'est à cette échelle-là qu'il faut réfléchir. Sur un plan institutionnel, oui, mais ce n'est pas le moment de poser la question. Est-ce que ces processus onusiens sont bien adaptés à la gestion des biens communs de la planète? Oui et non. Mais cette fameuse Organisation mondiale de l'environnement, je ne sais pas si l'intitulé n'est pas trop réducteur, peut-on la faire ressurgir aussi pour faire en sorte que ces biens communs dont l'équilibre climatique font partie soient traités à longueur d'année par une organisation qui est une puissance de feu supérieure à l'Organisation mondiale du commerce? Voilà ce que je veux voulais simplement faire passer comme message, soyons à la hauteur des enjeux. Et je voudrais juste terminer pour faire ce contraste entre subir et agir. Subir, chacun a compris qu'on s'est fait la guerre pour le pétrole, on se fera la guerre pour les terres arables, pour l'eau. Monique Barbu, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies à la désertification, me disait que la désertification en Afrique, poussée par les changements climatiques, aura porté aux portes de l'Europe entre 2000 et 2020 60 millions de personnes, dont celles et ceux qui meurent chaque jour par centaines. En Méditerranée, si on déroulait l'histoire de ces personnages, on retrouverait probablement des gens qui ont fui la désertification. Mais en creux, imaginez que pour répondre à l'enjeu climatique, on accélère le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique comme on va y être contraint de toute façon. En gardant à l'esprit que ce ne sont pas des énergies archaïques, ça n'est pas une vision rétrograde, au contraire, c'est la modernité poussée à l'extrême. Et que nous avons été longtemps dans la préhistoire des énergies renouvelables, mais les choses vont excessivement vite, les coûts tombent et l'efficacité, elle, est en train d'augmenter. Et donc, à quoi peut ressembler le monde de 2030 et peut-être de 2050? à un monde qui sera basé sur un modèle énergétique totalement différent. Imaginez que sous la pression climatique, nous répondions principalement dans un premier temps et exclusivement dans un deuxième temps à nos besoins énergétiques par le prisme des énergies renouvelables. Imaginez que chaque État, petit, moyen ou puissant, puisse produire dans ses frontières sa propre énergie à partir d'énergies qui, à terme, sont gratuites. Le vent est gratuit, le soleil est gratuit, l'énergie des mers est gratuite, la biomasse peut l'être, la géothermie est gratuite et la force des courants aquatiques est gratuite également. Eh bien, c'est un facteur de paix absolue parce que vous rétablissez l'équité du monde. Les rapports de force entre pays sont proportionnés à la détention de certains pays d'un certain nombre de stocks d'énergie fossile et la plupart des conflits auxquels nous avons assisté ont été induits d'une manière avouée ou dissimulée par, évidemment, cet approvisionnement et cette détention. En permettant à chaque pays de produire, et il en vaut d'ailleurs de l'énergie comme de la production agricole, d'acquérir une autonomie et de pouvoir à terme disposer d'une énergie bon marché, vous leur donnez d'abord la possibilité enfin de se développer et l'argent qu'ils ne mettront plus dans l'énergie, ils pourront le mettre dans l'éducation, la santé et l'accès aux soins. Et je conclus en disant définitivement, nous avons une magnifique opportunité.
Merci. Merci Nicolas.
La COP21, l'opportunité, plutôt que de savoir qui va mourir le premier, l'intégralité des conférences, vivre ensemble le réchauffement climatique, est à retrouver sur le site du Conseil économique, social et environnemental.
C'était un sujet réalisé par Pascal Marcaggi.